RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Roland-Garros 2026 consacré à une journée un peu particulière puisqu'il y aura un mélange de sport, d'extra-sport, d'infos exclusives. Alors Anthony Reich, il s'est levé très tôt ce matin puisqu'il avait, il avait dû aller au bureau de BFM puisqu'il a sorti une très très belle enquête sur la terre battue qui est en train de disparaître en France. Je vous la conseille, elle est sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'avais retweeté. Et donc, j'ai une alternate, une lucky loser. Vous aviez déjà entendu sa voix il y a quoi? Il y a 3-4 mois? Non, plus que ça, il y a 5-6 mois, lors du Masters 1000 de Paris La Défense Arena. Maria Azé est à mes côtés. Bonsoir Maria.
Bonsoir Eric, bonsoir à tout le monde. Encore un honneur, j'avais vécu ma première en Masters 1000 de la Défense Arena, maintenant anciennement Bercy. Et voilà, c'est ma deuxième ici à Roland-Garros, ma première à Roland-Garros, donc assez incroyable quand même.
Et pour l'anecdote, elle avait essuyé les plâtres à la Défense Arena puisque j'avais oublié de déclencher le micro. Et donc je lui avais dit, écoute Maria, on venait de faire 20 minutes, hein. Maria, on va être obligé de tout refaire. On avait fait une deuxième version. Maria, on est sur le central, dans la tribune de presse, avec, malgré l'heure tardive, Giovanni Mpeci Piricard, qui s'entraîne avec son nouveau coach, Greg Rudzewski. Et la remarque qu'on s'est faite, c'est que Greg Rudzewski s'est cacassé.
Stephen Brun, on le connaît très bien.
C'est clair.
Il nous avait pas prévenu, Stephen Brun, que c'était le nouvel entraîneur de Mpeci Piricard. Donc on le regarde. Il n'est pas mauvais, Stephen, hein, il a un bon coup droit.
La grosse différence, Greg Rudzewski, il a un vrai palmarès, alors que Stephen, il a pas grand-chose. Non, mais c'est vrai, Rudzewski, l'anglais, donc finaliste de Grand Chelem, est aux côtés de Giovanni Mpeci depuis quelques semaines. Et on attend la programmation, mais c'est pas impossible que, si Giovanni s'échauffe à cette heure-là, Maria, il pourrait bien jouer la night session de dimanche contre Novak Djokovic. On vous dira ça en fin de programme. Maria, on va attaquer avec le chaos annoncé, qui en fait a fait pchit. Puisque vous savez que c'était le Media Day. Alors Media Day, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les podcasts précédents, c'est une journée où les joueurs, tous les principaux joueurs hein, évidemment, donnent une heure de leur temps aux médias, aux différents médias qui sont à Paris. Sauf qu'il y a eu l'affaire du prize money qui les a un peu refroidis. Donc il y a eu une petite opération. C'est pas une grève, mais c'est service minimum. C'est ça, Maria. On s'attendait à un chaos. On raconte tous les coulisses. Ça fait pchit.
À la base, ce qu'ils nous avaient annoncé, c'était qu'ils réservaient que 15 minutes aux médias au lieu des 1 heure prévue. Donc environ 10 minutes pour la presse écrite et 5 minutes pour les télédiffuseurs. C'était ce qui était prévu. Bon, au final, tout le monde a posé la question. Hein. C'est simple, la question a été posée à littéralement tous les grands joueurs, tous les joueurs, tous les favoris, tout le monde. Et bon, on sentait qu'il y avait un mouvement, quand même une unité, mais il n'y a pas eu, tout ce qui s'est passé. Bon, Aryna Sabalenka, par exemple, elle a arrêté sa conférence de presse au bout de, allez, on va dire 10-12 minutes en disant, bon, vous savez ce qui se passe, je m'en vais, mais on va dire que c'était pour la forme. Ils avaient tous des éléments de langage, ils racontaient tous la même chose, qu'il faut soutenir les joueurs, c'est pas les numéros 1 mondiaux qui sont concernés.
Moi, j'appellerais ça, Maria, une sorte de rétro-pédalage, parce qu'à Rome, c'était beaucoup plus virulent. Aryna Sabalenka, on croyait qu'elle parlait pour son propre prize money. Et je pense que ça avait été mal perçu par le grand public. Donc là, sorte de rétro-pédalage, comme tu l'as dit, élément de langage, tout était nickel.
Oui,
de vraie politique.
Et puis on parlait de boycott, on commence à parler de boycott. Qu'est-ce que vous allez faire s'il ne se passe rien? Au final, on imagine très mal une Aryna Sabalenka, un Novak Djokovic, un Alexander Zverev boycotté de Roland-Garros. Enfin, ça n'arrivera jamais. Donc voilà, ils ont fait le travail, on va dire, mais certains, comme Novak Djokovic notamment, n'a pas respecté les 15 minutes.
Ah, mais lui, il n'était pas dans le mouvement, hein, parce que lui, il est à part, il a pris du recul, et j'ai trouvé, comme d'habitude, ça a été le plus intelligent de tous, et il a ouvert une piste. Il faut peut-être suivre ce qui se fait dans le golf. Donc lui, il connaît tout ce qui se passe dans les milieux sportifs du monde entier, et c'est vrai que, maintenant on peut le dire, la démarche était peut-être maladroite à Rome, ils ont poussé le bouchon un peu loin. Bon, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on se parle, il y a peut-être eu une réunion avec les agents, avec Amélie Mauresmo, avec Gilles Moreton. C'est ce qui était prévu. Franchement, on n'a pas d'infos, on ne peut pas vous dire. Mais il va falloir suivre ça de près quand même, Maria, parce que ça peut déboucher, pourquoi pas, sur un nouveau mouvement de mauvaise humeur à Wimbledon. Parce que ce qui a déclenché cette opération lenteur, enfin service minimum, c'est qu'ils ont eu écho que le prize money de Wimbledon, il ne les satisfait pas. Donc voilà, donc à suivre cette histoire, mais bon, en tout cas, ça n'a pas remué les foules et maintenant on va revenir à une affaire beaucoup plus intéressante, puisque la Maria, elle a mené l'enquête et ça se raconte, puisque On a découvert ce vendredi matin que Arthur Fils avait un créneau d'entraînement réservé, pas au stade Roland-Garros, Maria. Là, il faut que tu nous racontes tout de A à Z parce qu'il s'est passé des choses.
Oui, un créneau de réservé sur les terrains de Jambouin. Alors, pour tout vous expliquer, c'est le terrain le plus au fin fond de Jambouin que vous pouvez faire, le plus à l'abri des regards. Tout ce qu'essaie de faire Arthur Fils depuis le début de ses qualifications, il se cache clairement, on ne l'a pas vu, on ne l'a jamais vu s'entraîner ici. Voilà. Là, il était vraiment caché dans un coin. C'était très, très cadré, cette organisation. Moi, je suis arrivée aux alentours de 15h30. Je demandais à des jeunes qui attendaient devant, qui nous ont dit qu'ils avaient bien vu Arthur Fils entrer. Donc, Arthur Fils était bien là. On se demandait s'il allait s'entraîner. Oui, il s'est entraîné. Arthur Fils, mais bien caché, bien dans un coin, et c'était que 5 journalistes en même temps, consigne.
Ah oui.
Consigne, je suis arrivée, moi il y avait déjà 5 journalistes qui étaient rentrés, parce que pour vous, tout vous expliquer, on a le droit qu'à 20 minutes déjà sur les terrains d'entraînement de Jambouin, donc moi je suis arrivée vraiment au dernier moment pour pouvoir profiter le maximum de l'entraînement, sauf que quand je suis arrivée, il y avait déjà 5 journalistes qui étaient à l'intérieur, donc on m'a dit non, faut que vous attendiez une demi-heure pour attendre que les autres journalistes sortent et que vous puissiez entrer. Donc j'attends une demi-heure, je finis par réussir à rentrer, et là c'était la série Netflix, hein, tout simplement.
Comment ça, série Netflix, je comprends pas.
On était derrière des grilles, lui il était sur... Alors il y avait Arina Sabalenka qui s'entraînait sur le terrain en premier plan, et sur le court 21, Arthur Fils, donc tout dans le fond, caché à moitié par des panneaux verts, donc voilà, quand il avait besoin à la fin d'un point qu'on le voit pas, il se cachait derrière.
Ah oui, carrément.
Il se cachait derrière les panneaux. Ils étaient 10 sur son court, alors entre le papa, agent, coach, sparring, assistant, la vidéo pour le film, je sais pas ce qu'il était en train de tourner, mais il était en train de tourner quelque chose, mais ça faisait vraiment contraste avec Arina Sabalenka à côté, ils étaient 3. Là, c'était le gros dispositif pour Arthur Fils, ils étaient 10. Et alors, entraînement, c'est bien parce qu'on a pu comparer avec les deux à côté. Entraînement haute intensité pour Arina Sabalenka, pas haute intensité pour Arthur Fils. C'est pas hyper, hyper rassurant. Il a tapé, pendant 5 minutes des balles vraiment fortes, mais sinon, globalement, je ne l'ai pas vu taper beaucoup. À la fin de son entraînement, alors normalement, il devait se terminer à 17h30, il s'est finalement terminé à 17h. Un peu grimaçant. Alors après, c'était un peu particulier l'ambiance parce qu'il regardait toujours vers les journalistes et photographes qui étaient là, donc nous 5 du coup. Toujours acheter un petit coup d'œil et après à baisser la tête, comme à faire l'acteur un petit peu. Enfin, du coup, on ne sait pas trop démêler le vrai du faux dans tout ça. À la fin, il s'est assis sur son banc, son père qui lui mettait des petites tapes sur l'épaule, comme si ça va aller, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais on ne sait pas trop démêler le vrai du faux parce qu'il savait très bien qu'il y avait des journalistes qui étaient là pour l'observer. Donc ça a très bien pu être de l'acting comme quelque chose de. Un signe de faiblesse d'Arthur Fils avant son entrée en lice. Les signaux ne sont pas hyper, hyper rassurants, on ne va pas se mentir.
Oui, là, ce que tu viens de me dire, quand même, ça, effectivement, ça ne me rassure pas, mais ça confirme l'impression générale. Quand tu fais partie des favoris du tournoi, tu viens forcément prendre la température du central fiche-patrier, comme l'ont fait Novak Djokovic, comme l'ont fait Yannick Sinner, Sacha Zverev, et je ne parle pas des filles, hein, c'est une tradition. Il faut, parce que les conditions de jeu ne sont pas les mêmes sur le châtrier que sur le court 21 du stade Jambouin, donc il cache des choses, clairement. Mais ça peut se comprendre, parce que depuis son abandon à Rome, on ne sait pas où il en est. Je rappelle le film, il abandonne contre Pellegrino, il ne vient pas au point presse. C'est-à-dire qu'il, dans le vestiaire, quelqu'un de l'ATP enregistre avec son téléphone 2-3 phrases qui sont ensuite distribuées aux journalistes accrédités à Rome. Et puis quelques jours plus tard, un petit tweet de 2 lignes plutôt rassurant. Mais le fait qu'on ne l'ait pas vu s'entraîner ici, c'est quand même un signe inquiétant. Pour l'instant, il y a... Bon, on n'a pas plus d'infos, on est vendredi soir, on sait qu'il jouera lundi. Comme l'a dit Ivan Ljubicic, ça laisse du temps, pas beaucoup, mais ça laisse du temps. Mais franchement, je vais vous le dire, franchement, s'il y a un forfait qui tombe dimanche soir, je ne tomberai pas de la chaise. Voilà, je vous le dis franchement, peut-être que je suis alarmiste, mais vous avez entendu Maria, l'intensité n'était pas folle. Il veut quelque part aussi rassurer ses partenaires, parce que on vous dit les choses. Il était convié à la soirée de Gaël Monfils. Il n'est pas venu. On attend toujours son passage au Media Day. Donc il y a plein d'indices qui ne sont, sont pas très bons.
Il était convié à une soirée Lacoste ce soir avec son partenaire. Pareil, il a décliné au dernier moment. Il ne vient pas. Ça commence à faire beaucoup. Et ça fait vraiment... Quand on se cache globalement, c'est qu'on a quelque chose forcément à cacher. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc... Moi déjà, je ne savais pas si on allait le voir à l'entraînement aujourd'hui. Je trouve qu'on ne l'aurait pas vu à l'entraînement aujourd'hui, ça n'aurait pas non plus été une grosse surprise. On l'a vu, est-ce qu'il l'a fait pour la forme ? et parce qu'il veut essayer de voir au dernier moment si c'est possible ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, non, on va dire que les pourcentages sont pas très favorables.
Et c'est tellement dommage parce que Tony Estanguet nous avait régalé lors du tirage au sort, puisqu'on n'avait qu'une trouille, c'est que Arthur Fils soit dans le haut de tableau. On sait maintenant qu'il est dans le bas de tableau avec un possible rendez-vous en 8e contre Sacha Zverev. Bon, on va pas s'éterniser sur le cas Arthur Fils, on va le laisser tranquille. Hein. On espère qu'il va passer une bonne nuit, il avait peut-être besoin de taper, même si ce n'est pas de manière très intensive, il avait besoin de taper. Demain, il aura une nouvelle chance et on va se déplacer sur le site vraiment de Roland-Garros. Là, on passe de Jean-Bouin à Roland puisqu'il y avait la fin des qualifs. Et là, Maria, ça a été totale régalade puisque on a eu 4 Français en tout donc qui vont rallier le grand tableau. Donc Thomas Forel s'était qualifié jeudi et aujourd'hui, on a eu 3 succès. Alors on va commencer par d'abord la défaite, mais on va quand même lui rendre hommage parce que Harmonitan a fait un super Roland, des super qualifs de Roland. Malheureusement, elle a échoué sur le dernier obstacle, mais les garçons, c'est carton plein. Sur le 14, Luka Pavlovic, 240e mondial, a battu Darwin Blanche, l'américain, et le joueur de Seine-Saint-Denis va disputer son premier match en Grand Chelem, et je pense qu'il a sauté de joie quand il a découvert la répartition puisqu'il jouera contre Joao Fonseca. C'est l'assurance d'avoir un grand coup, parce que je ne sais pas si tu te souviens, Maria, l'an passé, Fonseca, il avait programmé sur le court 7. Ça avait été un chaos total. Il y avait des queues monstrueuses parce que Fonseca, il a des fans dans le monde entier. Tu te souviens de cette scène, non ?
Oui, je me souviens très bien. Et tous ces fans, évidemment, Roland-Garros, ça attire le monde entier. Hein. Ce n'est pas que les fans français. Ça arrive souvent, ce problème-là, que les cours annexes sont surchargés. C'est surchargé. Et à un moment, forcément, ça déborde.
C'était une erreur de casting. Bon, ils ont appris. Je pense que ça, c'est un match qui jouera sur le... peut-être le 14. Tel 14, hein. Je ne sais pas si vous suivez rmc.fr. J'ai peut-être sorti une petite info. Apparemment, il y aura des travaux cet été sur le 14. Je pense qu'ils vont augmenter la capacité. Je serais curieux de voir les plans de l'architecte. Bon, donc ça, c'était sur Luka Pavlovic qui passe. Fonseca, donc ça, joli match à jouer pour le tricolore. Moi, je suis ravi. Sur le cours Suzanne Haglen, Pierre Hugerbert a décroché son ticket en venant à bout du Suisse Leandro Riedi en 3-7, 6-4, 6-7, 6-3. Écoutez la joie de l'Alsacien.
C'est déjà une vraie joie de pouvoir jouer sur ce court devant autant de personnes. J'avais vu ça à la télé les dernières années et là, d'avoir déjà pu jouer ces deux matchs, c'est extraordinaire. Et en plus de m'en sortir, de gagner, de partager ça avec le public, c'est magnifique. Donc voilà, hyper heureux. C'est quelque chose que j'ai pas tellement fait dans ma carrière quand même. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait à Roland-Garros. Donc c'est génial et ça m'arrive à 35 ans, donc c'est fou. C'est un vrai bonheur et vraiment ça vient récompenser beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de moments un peu difficiles ces dernières années. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. On va regarder le tirage et ce qui m'attend pour la suite.
Alors la suite, parce qu'au moment de l'interview, on ne connaissait pas son adversaire. La suite, ce sera contre l'Italien Lorenzo Sonego. Sonego qui a gagné que 2 matchs en 2026. Un Hong Kong, un Barcelone. Je profite de parler de Pierre Gerber donc contre Riedi parce qu'il y a eu un petit incident, Maria, pendant ce match, puisque Riedi s'est plaint peut-être d'un manque de respect de la part de la fameuse tribune bleue. Parce que Riedi, il est suisse, mais il comprend très bien le français. Donc il y a eu des scènes un peu de débordement. Maria, ça peut être une bonne idée de reportage parce que tribune bleue, c'est génial. Mais il ne faut pas pousser le pouchon trop loin, je trouve.
Le chauvinisme, il a ses limites, hein, c'est toujours pareil. Après, ça fait aussi un peu le charme des tournois et de ce qui se passe en France, que ce soit à Roland-Garros, que ce soit au Masters 1000 de la Défense Arena. On sait que les joueurs se plaignent très régulièrement du public, du manque de respect du public français. Et d'un côté, il y a aussi des Yannick Sinner qui vont dire que Roland-Garros, c'est spécial parce que c'est une ambiance très spéciale et il y a une ferveur qui est assez incroyable. Je sais pas, c'est toujours un sujet compliqué. Il y a la ferveur, mais forcément, ça implique aussi parfois quelques manques de respect. Et là, ça a sûrement été le cas sur le Suzanne Langen.
Eh bien, ça fera des bons petits sons, des bonnes enquêtes à mener pendant tout le tournoi parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, les membres de la tribune. On les salue, hein, mais attention. Soyez cool, quand on n'applaudit pas les doubles fautes adverses, on n'applaudit pas les fautes aussi de l'adversaire du français. Bon bref, ce sera à suivre parce que moi je suis très vieille à l'école, moi j'aime qu'on respecte le jeu. Troisième français qualifié, Maria, Kyrian Jacquet, qui a battu sur le Linglen, lui aussi, le gaucher anglais Félix Gilles. Eh bien, déjà l'an passé, il était sorti des qualifs, le Lyonnais. Eh bien là, il a récidivé. Et on l'écoute, il était évidemment aux anges.
Oh, franchement, c'était des conditions que j'adore. Moi, j'aime bien quand il fait chaud, quand il fait beau. Ça représente aussi la terre battue, c'est le combat. C'est tout ce que j'aime. Donc aujourd'hui, c'était un beau combat aussi. C'était différent du cours 14, évidemment. En termes d'ambiance à choisir, en fait, les deux sont très différents. Mais on est beaucoup plus proche sur le cours 14. Donc ça fait vraiment un effet encore plus oppressant dans le bon sens. Voilà, après le Linglen, le fait d'avoir autant de personnes, c'était vraiment incroyable pour moi. J'ai profité de chaque moment et j'espère en vivre d'autres.
Maria, l'histoire de Kerem Jacquet, elle était assez folle parce que début avril, il s'est fait opérer du coude. Il avait un truc qui tracassait depuis longtemps et à un moment, il fallait y aller. Donc, il est passé sur le billard début avril. Timing était chaud, hein. Mais finalement, la rééducation s'est bien passée. Je pense qu'il peut remercier son staff. Et maintenant, il va tenter de remporter sa première victoire en Grand Chelem, puisqu'il reste sur 3 échecs, dont 2 douloureux en 5-7. L'an passé, ici même, contre le Portugais Borges, je m'en souviens, j'avais fait un direct avec le matériel au bord du cours 6. Et en Australie, il avait eu une wildcard, il avait perdu 7-6 au 3e contre Nava. Son adversaire sera l'Argentin Marco Trungiletti. Peut-être t'apprendre un truc là. C'est le plus vieux joueur avoir intégré le top 100, c'était au mois d'avril après le tournoi de Marrakech. Et puis, on se souvient de Thomas Forel, on en a parlé, on connaît l'adversaire de Thomas Forel, et là, ça nous fait bien plaisir, puisque ce sera Valentin Vachereau, Maria. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Monégasque, c'est un peu la coqueluche de RMC. Il était dans le Moscato Show ce vendredi après-midi, et surtout, il a participé au Kikadi, ça veut dire qu'il va devenir membre à vie du Kikadi. Et Maria, je te le donne en mille, il a trouvé une bonne réponse.
Il n'a pas été mauvais, hein. On l'a senti très investi. Et une petite charade sur Cassandre Beaugrand, il a été vraiment excellent. Premier à dégainer, il nous a impressionné. Je crois qu'il a impressionné tout le monde. Donc il sera le bienvenu pour revenir. Valentin Vachereau, maintenant qu'il a sa carte de membre, il faut qu'il assume son statut.
Mais tu sais que c'est un fan absolu de l'émission de Vincent Moscato, puisque souvent, quand il s'entraînait à Monte-Carlo, ses horaires coïncidaient, il terminait, il était dans sa voiture et il écoutait le Moscato Show. Et quand je lui ai proposé de venir vendredi, via son agent m'a dit « il est chaud bouillant ». Et on a eu la preuve, il était presque limite stressé avant d'entrer dans la cabine RMC. Et ben, merci Maria pour ce petit… Oh bah écoute, ça tombe bien, on a le programme de dimanche. Oh bah là, ça pouvait pas mieux tomber, ben, on va vous le livrer tel quel. Allez, on va se faire chacun son tour. Tu commences par le premier match sur le cours Châtrier.
Ouais, sur le cours Châtrier, premier match, ce sera un match femme Kraus contre Bencic à partir de midi. Voilà, premier match sur le cours Philippe Châtrier.
Le deuxième match, un simple messieurs, on s'y attendait. Benjamin Bonzi contre Sacha Zverev, donc tête de série numéro 2. Le match 3.
Match 3, un match dame encore avec Mira Andreeva face à la Française Fiona Ferro.
Et si vous avez écouté RMC, si vous avez suivi un peu les parties de tableau qui débutent, pas de surprise, la Night Session, c'est pas un hasard, c'est lui, c'est Joe, c'est Giovanni Empeci, il est encore en train de taper là, qui jouera donc contre Novak Djokovic, coup d'envoi à 20h15. Allez Maria, vas-y, donne-moi le programme du Linglen.
Alors, programme du Suzanne Linglen, premier match à partir de 11h, Kachanov contre Gia.
Ensuite, Hayley Battis, l'américaine, qui a très très bien joué récemment à Madrid, qui jouera contre Barbora Krejcikova. Taylor Fritz contre Bazavaredi, l'américain. Et puis, je te la laisse.
Efremova face à Sistera sur le dernier match du cours Suzanne Langlen.
C'est Nia, qui est donc encore junior, qui a obtenu une wildcard. Elle a gagné l'Open d'Australie junior, on s'en souvient tous. Bon, elle n'avait pas eu un tirage facile, mais en tout cas, elle a la chance immense de jouer sur le cours Suzanne Linglen. Je termine avec le Mathieu avec trois Français. Eh ben, on en parle. Clara Burel contre Volinets, Titou Androgué contre Mensik, ça c'est un beau match. Et match 4, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, Luka Pavlovic, il sait où il jouera. On avait dit le 14, on s'est trompé, ce sera Simone Mathieu contre Joao Fonseca. Très bon choix des ordinateurs parce que Fonseca, il remplit le stade. Donc là, ça va être plein à craquer. C'est génial, c'est un beau dimanche à venir. Pierre Gerber rejouera dimanche contre Sonego. Voilà, on en a parlé dans le podcast, donc c'est officiel. Il ne va pas avoir beaucoup de jours de repos. Et Quentin Lys sera aussi au programme contre Bellucci. Valentin Royer contre Delienne. Et Kyrian Jacquet, il n'a aussi pas de repos. Il jouera Trujilletti sur le 6. Moi, c'est un cours qui... Ah non, c'est pas un cours qui va lui rappeler de bons souvenirs. C'est le cours sur lequel il est perdu l'an passé contre Borges. Voilà, je crois qu'on a tout dit, on n'a rien raté. Et la musique arrive pile poil pour saluer la fin de ce podcast. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.